71 89 40, et ben toujours avec la belle voix de Tita Nzebi sur Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse: Librairie du Monde Libertaire, 75 011, chez Métro République ou Fille du Calvaire, et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 13h. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Olivier Maillard.
Ça commence
et,
bien.
Et bien sûr, ça va être comme ça. Et puis bien sûr, la technique, Monique, je vous la présente. Voilà, sans elle, rien n'est possible. Hein. Voilà. Alors, poétique de Tom Cruise. Vous dites Cruise, comment vous dites-vous?
Je dirais Cruise.
Cruise, d'accord.
J'ai fait un, sans certitude.
J'ai fait un petit sondage, et puis c'est un peu variable. C'est aux éditions Marest.
Tout à fait.
Alors, les éditions Marest, c'est des beaux livres.
Ah oui, je trouve aussi.
Esthétiquement.
C'est le deuxième livre que je fais dans cette maison. Et effectivement, c'est donc un éditeur spécialisé dans les ouvrages sur le cinéma, même s'il n'y a pas que ça, et qui effectivement soigne l'apparence de ces livres.
C'est un bel objet. Il avait fait un livre avec Jacques Coda, Caméra Gréco, qui était aussi très réussi, et Jacques Coda était tellement content, c'est un conseil que je vous donne avant de commencer l'émission, tellement content de l'esthétique de son livre, il s'est fait faire un t-shirt avec la couverture de son livre, et il hantait le 11e et le 20e arrondissement, chemise ouverte, avec simplement Caméra Gréco sur la poitrine. Alors je ne sais pas si les chiffres d'affaires de M. Marest sont en hausse depuis, j'en sais absolument rien.
J'y songerai pour Poétique de Tom Cruise. Hein,
essayez, vous me racontez après.
Très bien.
D'accord. Donc, c'est vous qui avez choisi la couverture?
Oui, on en a discuté avec Pierre-Julien Marest, donc mon éditeur, et on voulait... Je voulais une image de film, de toute façon, avec évidemment Tom Cruise, et on hésitait, on voulait quelque chose qui mette en scène son corps dans un de ses exploits un peu improbables, et j'ai pu hésiter avec d'autres. Il y avait notamment la fameuse image, mais qui me semblait trop employée dans le premier Mission Impossible, quand il descend dans la salle des ordinateurs accroché à un fil, mais il me semblait qu'on l'avait déjà beaucoup vue, cette image.
Plus connue, voilà. Beaucoup plus connue. Hein.
Et donc celle-ci était peut-être allée dans un autre Mission Impossible, dans le quatrième, mais elle témoigne aussi du jeu à la fois avec le spectaculaire, le burlesque, l'improbable, parce qu'on se demande comment il tient là où il tient.
On va en parler, Olivier. Alors, Olivier, une petite, avant de revenir à la couverture, là, petite parenthèse, j'ai reçu des... Oui, bien sûr, je m'y attendais un petit peu, des mails lorsque j'ai programmé l'émission en me disant « Est-ce que tu t'es inscrit à l'église de Scientologie ?» Alors, je tiens à dire que Radio Libertaire n'est pas financé par l'Église de Scientologie, absolument pas.
Moi non plus, voilà. Malheureusement.
Et c'est marrant parce que j'ai reçu en même temps, le même jour, par plusieurs canaux, comme quoi la Raël, vous voyez, le mouvement Raël, oui, Raël, oui, oui, se réclamait du surréaliste.
D'accord.
Voilà, on en est là. Alors, on va finir que, je sais pas, les témoins de Jéhovah ou des choses comme ça. On est dans une pagaille intellectuelle très grande. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, quand j'ai commencé le projet du livre sur la proposition de mon éditeur, je voulais faire quelque chose peut-être sous une forme plus humoristique et en posant la question justement du côté sectaire. Est-ce que c'est un homme Dieu? Est-ce qu'il vient de l'espace? Etc. Et donc, je m'étais dit, allons, parce que je ne connaissais pas grand chose à la scientologie, soyons honnêtes, allons rendre visite à ces gens. Donc, je suis allé, ils sont vers Sainte-Marie-des-Batignolles, là, dans le coin du 17e. Il y a un temple de l'Église de Scientologie. Ça ressemble plutôt à un peu à une agence de graphisme ou d'architecture. Hein. C'est plutôt des bureaux, des choses comme ça. Et donc, j'ai demandé à visiter. Donc, les gens vous reçoivent très aimablement. D'accord. Ils vous font visiter tout. Monsieur, ils vous montrent prie, ouais, les articles, les ouvrages de Ron Hubbard, etc. Puis, en fait, j'avoue que j'en ai rien fait. Ça n'a pas tellement nourri ma réflexion. Mais j'y suis allé en enquêteur de terrain.
Vous suivez mon conseil pour le t-shirt. Et moi, je vais aller voir ce qui se passe dans le mouvement Raël. D'accord. On prendra un verre, on se racontera.
Échange de bons procédés.
D'accord. Cette couverture, effectivement, elle est très belle. Alors, est-ce que ça annonce la couleur? Parce que moi, je vois un homme pendu, là, mais je vois aussi le vide entier, et ça me fait penser, vous savez, à ce qu'on appelait la peinture hyper réaliste, qui était une froideur insipide, inodore, et qui montrait quasiment le monde tel qu'il est, non?
C'est vrai qu'il y a un effet de ce qu'on appellerait la profondeur de champ, avec un effet de perspective, hein, c'est pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il y a une espèce de couloir qui mène à une vitre à laquelle, à l'extérieur du bâtiment, Tom Cruise est accroché, on ne sait trop comment, et ça montre un monde, un univers technique, ça c'est certain, un univers de haute technologie, et avec sa froideur, hein, les couleurs sont bleutées, effectivement. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que dans cet univers hyper technique, moderne, froid et déshumanisé par certains aspects, il y a encore un corps, justement. Il y a encore un homme.
C'est un corps dans le vide.
Un corps dans le vide, un corps dans une posture improbable, un corps athlétique et en même temps comique parce qu'on ne sait pas trop comment il tient. Et donc, une trace d'humanité dans ce monde, effectivement, déshumanisé.
D'accord. Alors, quand on reçoit un objet, ce livre est un objet, c'est-à-dire, moi, dans ma tête, c'est comme un flipper, ça fait boum boum, il y a une boule, et c'est fait, alors c'est quand même un livre avec plein de références, c'est très référencié, on va lire, etc. Bon. Et c'est venu dans ma tête, c'était perdu depuis tellement longtemps que je vous remercie que ce soit réapparu. J'avais fait une émission il y a très longtemps avec un individu, écrivain, acteur, et qui avait fait un spectacle sur Marcel Duchamp. Il était à votre place là. Et pendant une heure et un quart, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait dire. C'était mi-figue, mi-raisin. C'était de l'ironie totale. Et bon, il est parti et il m'a fait un cadeau 15 jours plus tard. Il m'a envoyé un livre. Et ce livre, c'était un livre sur Corot. C'est-à-dire l'antithèse totale de Marcel Duchamp. Et moi, je me suis donc, en vous lisant, je me suis demandé si votre Tom Cruise, comme vous voulez, par rapport à votre biographie, parce que vous avez quand même travaillé sur le cinéma le plus charnel qui existe, c'est-à-dire dans le cinéma italien, et ben est-ce que ce Tom Cruise, c'est pas votre Marcel Duchamp avec le cinéma italien en guise de Corot?
Alors, oui, c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé.
Vous êtes là pour penser, cher monsieur.
C'est parti, je vais faire de mon mieux. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'antithèse, mais qui sont le fait de mes goûts, pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai commencé à beaucoup travailler quand j'étais étudiant. En fait, j'ai fait une thèse sur le cinéma italien, j'ai écrit des ouvrages sur le cinéma italien, et effectivement, ça reste peut-être ce qui m'a le plus formé et qui m'accompagne le plus, sans doute aussi parce que c'est plus nourrissant, je pense, existentiellement que les seuls films de Tom Cruise, même si je les aime beaucoup par ailleurs. Et peut-être que ce qui se passe avec ce que j'aime dans le cinéma de Tom Cruise, c'est une échappée vers autre chose. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais C'est intéressant que vous ayez employé l'adjectif charnel, parce qu'il est certain que dans ce cinéma italien que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore, il y a l'histoire avec sa grande H, comme dirait Perec, avec un H majuscule. Il y a la violence politique, il y a l'érotisme, et toutes choses qui sont, alors pas dans tous les films de Tom Cruise, certains films sont ancrés dans l'histoire, Né un 4 juillet ou quelques-uns, mais globalement, c'est un cinéma effectivement qui a des problèmes avec l'érotisme, qui a des problèmes avec le corps et avec l'histoire.
Vous auriez fait un livre là, chez Marest sur n'importe quel cinéma italien. Vous auriez mis une trogne, celle de, je sais pas, pas de Mastroianni, lui, il avait pas une trogne, mais Alberto Sordi, puisque vous avez fait les Vitelloni, non? Vous auriez mis un corps de diva italienne. On est vraiment dans l'antithèse, là.
C'est vrai que le corps de Tom Cruise, lui, il va du côté du cygne, d'une certaine manière, hein. C'est quand Mallarmé dit que la danseuse, elle écrit avec son corps, là, on est effectivement du côté d'un corps qui se spiritualise, qui se dématérialise, qui va du côté du burlesque, du mime, et pas du tout, effectivement, de ce lestage de poids de chair et d'existence qu'on a dans les corps italiens.
Deuxième flipper dans ma tête, là, il y a une troisième, hein, vous n'êtes pas à bout de vos peines, c'est la couverture. Et il y a quelqu'un qui a très longtemps qui avait fait un article ou un bouquin sur la défense, le grand arche de la défense.
Oui.
En disant, ben voilà, on est arrivé là, c'est ce grand arche ouvert, sans rien derrière, c'est le vide.
Oui.
Non, vous ne trouvez pas ?
Mais c'est vrai que si on retourne ma couverture...
Bien sûr.
Ça me fait penser dans l'Empire des signes de Roland Barthes, à un moment, son livre sur le Japon, il y a une photo d'une maison japonaise avec tout cet très bel espace symétrique, sa profondeur, et il dit, renverser l'image... Rien de plus, rien de moins, rien.
Ça vous fait penser à la défense ou pas?
Une fois qu'on le renverse,
bien sûr, regardez, c'est exactement
raison.
Ça.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, troisième truc, et ça c'est très drôle que dans votre... vous avez fait un travail extrêmement fondé, complet, etc. On va en parler, on a le temps là. Il y a une chose, soit vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va en parler, ou alors ça ne vous intéresse pas, vous êtes passé à côté, je ne sais pas. Troisième bille du flipper, ça m'a fait penser à ce qu'a fait Valère Novarina, sur Louis de Funès,
oui,
l'acteur
oui.
élastique, ça vous inspire ou pas?
Alors, je crois que ce qu'il y a de très beau dans le livre, alors ce sont des lectures anciennes, mais j'avais lu ça de Novarina, c'est que quand il le fait, c'est un livre des années 80, si je me souviens bien, il y a le choix de l'objet impur.
C'est-à-dire
délibérément, c'est-à-dire de l'objet qui n'est pas noble du point de vue culturel. On va pas faire, quand on est un grand écrivain, un ouvrage sur Louis de Funès, c'est bas de gamme, c'est pas de la bonne qualité, c'est pas la vraie culture. Et il y a sans doute, moi, dans mon choix de... Enfin, c'était une proposition de mon éditeur, mais dans le fait que j'accepte et que je fasse ce livre sur Tom Cruise, il y a aussi le plaisir de prendre un objet culturel populaire, dont on sait bien, vous faisiez le rapprochement avec mes travaux sur le cinéma italien. Je sais bien dans le fond que ça ne dit pas la même chose du monde, que ça n'apporte pas la même chose. Mais de fait, si on est honnête avec soi-même, on peut aussi prendre plaisir à ces films, par exemple, et s'interroger sur le plaisir qu'on y prend, la nature de ce plaisir. Et donc, je ne crois pas faire quelque chose d'extrêmement transgressif en consacrant un livre à Tom Cruise, parce que c'est devenu cette manière d'élever un objet populaire pour livrer une analyse et une réflexion dessus. Il y a déjà des décennies derrière moi d'écrits critiques du même type. Mais je pense qu'il y a aussi le plaisir de s'accorder ça, effectivement, comme ça a pu être le cas pour Novarina, et bon, dans une toute autre échelle que la mienne, avec Louis de Funès.
Je vous ai choisi Peggy Lee pour nous accompagner. Ça vous inspire, Peggy Lee?
Je vous dirai après l'avoir...
D'accord. Merci, Monique. Never know how much I love you. Never know how much I care. I love to have your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, a fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. You give me fever
when you kiss me, a fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago, long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arm around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou giveth fever when we kiss it, a fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Forsooth, I doth burn. Captain Smith, Pocahontas had a very mad affair. And when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He give me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks will want to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a crazy way to burn. What a lovely way to burn.
Magnifique, hein, Peggy Lee, Fever. Merci Monique, hein, sur Radio Liberté 89.4. Avant de revenir à notre poétie de Tom Cruise, ou comme vous voulez, hein, Olivier Maillat aux éditions Marest, une petite invitation à vous faire. Alors, voilà. Si vous promenez dans le 19e arrondissement, du 11 au 18 mars, je vous invite, moi, c'est fait par le CNRS, les Égoutiers et les écoles du 19e et Panthéon-Sorbonne. Ça, vous qui enseignez, ça devrait vous concerner. Alors, il faut que vous mangiez, et vous aussi, Monique, le plus de fruits et légumes pendant du 11 au 18. Après, excusez-moi de vous le dire, mais il faut déféquer. Il faut vous déféquer, ça arrive à tout le monde, même aux gens très bien. Il faut vous déféquer et les Égoutiers vont regarder s'il y a un changement dans l'eau, qui est dans l'eau des égouts, etc.
D'accord.
Donc, c'est une enquête très importante dans le 19e arrondissement du 11 au 18 mars, l'aventure scientifique. Voilà. Ça vous va, ça?
Ben, je viendrai déféquer dans le 19e.
Déféquer du. Bon. Oui, avant de revenir au livre présent, là, vous avez écrit une chose qui m'intrigue, c'est sur les faux amis. Alors, c'est celui-là. Plutôt seul au féminin que mal accompagné, la littérature et ses faux amis, c'est quoi?
Alors, c'était un ouvrage, qui est paru il y a un an et demi à peu près. Qui rassemblait en fait différents essais que j'avais publiés à droite à gauche dans des revues. J'écris beaucoup dans des revues littéraires depuis à peu près 20 ans maintenant. Et c'est quelque chose qui est un univers qui s'éloigne un peu de nous, l'univers des revues, mais qui a beaucoup compté dans ma formation, je dirais, intellectuelle et ma sensibilité. Et j'avais rassemblé un certain nombre de textes où j'essayais de voir la littérature en situation, non pas de s'interroger sur l'ontologie, l'essence, l'âme de la littérature, mais de se demander à qui est-ce qu'elle a affaire, comment ça se passe avec des éditeurs, des critiques, des libraires, et de montrer finalement qu'il y avait beaucoup de gens qui en vivaient, qui témoignaient de beaucoup de sollicitude pour elle, mais qui peut-être l'étouffaient d'un trop plein de sollicitude, comme des bonnes fées qui se pressent autour d'un berceau, mais qui sont tellement nombreuses que le bébé arrive plus à respirer. Et donc c'était l'occasion d'un petit livre un peu humoristique où je racontais une expérience dans un salon, par exemple, qui... Il y a 5 ans, j'ai publié un roman, donc j'ai fait un salon, par exemple, et raconter à quel point ça peut être une expérience traumatisante, quoi que ce soit censé aider les auteurs.
Dans votre livre, c'est un livre qui n'est pas un pavé du tout, hein, qui doit faire à peu près 150, 100, 120 pages, 130 pages. Hein. À un moment donné, vous vous revendiquez d'Aristote. On parle d'Aristote vite fait. Alors moi, je vais faire le coup de Socrate. Hein. Permettez, sur le mot ironie, je suis allé voir vérifier l'étymologie du mot ironie, c'est l'interrogation. C'est l'interrogation et l'ironie socratienne, ou socratique, comme vous voulez. C'est le phénomène d'user d'ironie pour votre interlocuteur, pour le contraindre à reconnaître l'absurdité d'une évidence. Est-ce que dans votre livre, et pof, ça je voulais vous le dire, est-ce que il y a de l'ironie ou pas, au sens où je l'emploie ou pas ?
Alors, il y a certainement un ton humoristique qui est celui que dont j'aurais du mal à me défaire. Donc, il y a effectivement, notamment par rapport à ce que je vous disais, l'idée du titre même, de parler de poétique de Tom Cruise, donc de mêler quelque chose qui peut faire penser à Aristote ou à un objet sérieux et d'accoler Tom Cruise à ça, ça crée ce que Eisenstein appelait le montage des attractions. On associe un peu de force deux éléments qui semblent appartenir à des univers très différents et on crée un effet qui peut être ironique ou comique. Mmh. Ensuite, par rapport à l'ironie socratique qui cherche effectivement à pousser dans ses retranchements l'interlocuteur et à lui montrer que ce qu'il prend pour des certitudes ne sont peut-être que des opinions et pas des faits si aussi assurés qu'il le croit, peut-être que l'ouvrage, mais là c'est parce que vous me poussez à y réfléchir justement socratiquement que j'y réfléchis, va chercher à se demander si finalement oui, il n'y a pas malgré tout derrière le côté un peu galvaudé, populaire, commercial de ce que fait Tom Cruise, quelque chose à en retirer malgré tout, comme c'est l'image que reprend Rabelais cette fois en parlant de Socrate au début d'un de ses romans, quand il parle du silence, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un objet grotesque et à l'intérieur il y a un trésor, et peut-être qu'il faut voir les films de Cruise comme ça.
Mais vous savez que chez Reverdy on trouve ça aussi, Reverdy explique que plus de mots sont éloignés, plus l'explosion va exister, hein. Ça, c'est... Voilà.
Tout à fait.
La première phrase de votre livre, c'est « Il faut du temps », et c'est la quatrième de couverture aussi, hein. « Il faut du temps pour devenir Tom Cruise, même quand on s'appelle Tom Cruise ». D'accord ?
Tout à fait.
Vous savez que Saint John Perse disait cette phrase terrible. Au départ, il s'appelle Alexis Léger. Hein. Il se fait appeler Saint John Perse. Il dit « J'habiterai mon nom ». J'habiterai mon nom. Alors, est-ce que Tom Cruise habite son nom ou pas ?
A mis du temps à devenir
oui,
ce qu'il est.
Oui.
Mais d'une certaine manière, oui, parce que j'essaye, notamment dans le premier chapitre ou les deux premiers, à faire une sorte de généalogie du Cruise que nous connaissons aujourd'hui et montrer qu'il est, évidemment, il a mis un petit temps avant d'arriver à ça, ce qui est l'eau de tout individu, évidemment, et avec des évolutions, des métamorphoses, des bifurcations, des retours en arrière, etc. Et je crois aussi que si on prend derrière le nom de Tom Cruise une forme cinématographique, une forme artistique ou poétique même, pourquoi pas, il faut voir qu'il y a eu des étapes avant et qui sont pas forcément, c'est ce que je dis dans le livre, des films qui m'intéressent beaucoup, du point de vue du jeu, des choses qui me semblent ce qu'il a fait de mieux, avant d'arriver, depuis à peu près 20 ans, à quelque chose de... Mais qui n'est peut-être pas d'ailleurs sa forme définitive. Hein. Moi, je suis assez sartrien de ce point de vue-là. C'est que tant qu'il est en vie, il peut encore changer, il nous proposer autre chose.
Vous poussez quand même le bouchon très loin, on parle d'une œuvre crusienne.
Oui. Ensuite, c'est le côté semi-délirant, disons, de mon approche. C'est-à-dire que, évidemment, je prends peut-être un peu trop au sérieux mon objet.
Oui, moi, je vais vous dire franchement, je connais rien à Tom Cruise. Je connais absolument rien, à part l'image que j'en ai. Alors, vous avez, à un moment donné, vous l'appelez le connard réganien.
Oui, absolument.
Pour moi, c'est un connard réganien. Attendez, un connard réganien, un cover boy. J'ai vu 5-6 films. Ça m'a semblé pour certains à la gloire d'Hollywood, à la gloire de l'Amérique. Hein.
Tout à fait.
On n'est pas du tout dans le subversif de ce que j'appelle, moi, les grands acteurs américains, hein. C'est-à-dire Brando, c'est-à-dire des gens comme ça.
Hein. Ah oui, on est dans une toute autre veine de toute façon, et tout le démarrage de sa carrière, notamment Top Gun, les cocktails, Rain Man, etc. On est dans le plébiscite de ce qui est, effectivement. Et on n'est pas, il se met un moment à lorgner du côté de Brando ou d'acteurs comme ça. Il va jouer avec Newman. Même dans Rain Man, il joue avec Dustin Hoffman. Plutôt dans la fin des années 80, début 90, où il essaye de jouer plus sur la complexité, la fêlure. Je crois que malgré tout, il est arrivé à des rôles plus complexes et plus torturés, même s'il s'est pas forcément, il s'est pas forcément arrêté à ce type de rôle. Il y a au moins deux grands films qui sont vraiment des films, enfin surtout l'un où, très réussi, et dans les deux lui-même est très bon, où il va jouer de cette fêlure qu'on pouvait avoir chez des gens comme Brando. C'est le film qu'il fait avec Stanley Kubrick à la fin des années 90, Eyes Wide Shut. Et puis un film qui est moins réussi, mais où lui-même est très bien, qui est Magnolia de Paul Thomas Anderson, où il fait une sorte de gourou viriliste. Ce sont des choses qu'on a vu arriver depuis en France, mais quand le film est sorti, on connaissait pas trop ça en France, qui, vous savez, qui sont des coachs en séduction qui apprennent à des hommes esselés à dominer et à conquérir les femmes. Et là, il livre une prestation.
C'est un bon boulot, ça.
Ah bah, en ce moment, je crois que c'est le moment.
C'est un très bon boulot. Mais je veux dire que, à vous lire, comme ça, moi, ça a été ma lecture, là, sur le point d'ironie. Hein. Je vous ai lu sur le point d'ironie. Et je me suis dit, des fois, il pousse. Mais tant mieux, hein, c'est pas même pas une critique, parce qu'on est, c'est la règle du jeu. Hein. Mm-hmm. Mais je veux dire aussi que vous avez pris notre ami Tom Cruise comme point de départ, mais vous auriez pu le faire, outre le phénomène affinitaire peut-être, mm-hmm. avec plein de gens. Regardez, on en parle dans le couloir d'Alain Delon. Est-ce qu'il y a un homme plus énigmatique qu'Alain Delon dans Monsieur Klein?
Le livre aurait été vraiment très différent avec Alain Delon. Je crois que malgré tout, oui, il y a un côté, je prends un objet délibérément commercial pour me livrer une réflexion dessus et essayer de... Mais le but, avec le côté légèrement délirant, que je reconnais tout à fait, mais de l'aboutissement de la réflexion, c'est d'être malgré tout arrivé à saisir ce qui faisait que Tom Cruise apporte esthétiquement quelque chose au cinéma de notre époque. Je pense que si j'avais eu à faire quelque chose sur Alain Delon, qui est une énigme, oui, également, ça c'est certain, le livre aurait été très différent, parce que pour le coup, le cinéma d'Alain Delon n'est pas de la même époque, évidemment, n'est d'une toute autre nature, pour le coup, s'ancre dans l'histoire. Je crois vraiment que c'est une différence capitale. C'est-à-dire qu'il y a du cinéma de l'histoire, enfin, dans l'histoire des hommes, dans les conflits, dans les luttes.
Donc vous mettez un grand H, là.
Oui.
D'accord,
oui, oui.
OK.
Et chez Cruise, on est dans ce que Baudrillard aurait appelé le simulacre, c'est-à-dire qu'on est déjà dans les corps en apesanteur.
Alors, parfaitement d'accord. Et il y a même permettez une petite contradiction par rapport à la couverture et votre livre. À un moment donné, vous dites que c'est pas une marionnette.
Oui.
Vous le dites. Mais là, quand on voit la couverture, on a l'impression que c'est un pantin qui est en train de, d'agiter, quoi.
Alors, avec la marionnette, il y a deux choses. Il y a effectivement le moment où j'ai envie de défendre, malgré tout, mon comédien en disant il n'est pas que la marionnette de ses réalisateurs, parce que quand on choisit d'écrire sur un comédien, il y a un moment où on a envie de dépasser le cliché de l'auteur, metteur en scène tout-puissant, démiurge, qui dirige tout, domine tout, et qui relègue tous ses collaborateurs, comédiens compris, à la portion congrue du point de vue de l'acte de la création collective qu'est le cinéma. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, à un moment, je parle du fameux essai de Kleist sur le théâtre de marionnettes, où la marionnette, qui effectivement est mue par ses fils, etc., touche à un moment, dépasse sa condition, ses gestes un peu engoncés, un peu mécaniques, pour atteindre à la grâce. Et je pense que c'est ce qui peut se passer dans certaines scènes de ces films. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté marionnette, mais fugacement, par moment, il y a une sorte d'éclat poétique où il fait quelque chose de cet être marionnette.
Vous n'êtes pas prêt à dire que c'est un prétexte?
Non, ce serait...
Vous ne voulez pas.
Je ne vous donnerai pas ce plaisir.
D'accord. Par contre, vous allez me faire un plaisir, c'est de prendre vos responsabilités par rapport à la page 12.
Très
pas
bien.
Seulement pour moi. C'est le phénomène... la différence qu'il y a entre le visuel et l'image.
Oui.
Allez-y, lancez-vous. Après, on écoutera un peu de musique.
Je vous relis le passage.
Oui, allez-y.
D'accord. Alors, je reprends, en fait, c'est une distinction qui n'est pas de moi, mais qui vient de Serge Danet, qui a été un grand critique au Cahier du cinéma, notamment dans la période, une des périodes les plus sombres des Cahiers du cinéma, leur période maoïste, dans les années 70, mais c'était quand même un grand critique aussi. Et donc, il parle dans les années 80-90, il parle à ce moment-là du cinéma de gens comme... Jean-Jacques Hanau, Benex, Besson, qui l'exècre complètement d'un cinéma très publicitaire dans sa forme.
Et moi aussi.
On est plusieurs. Alors, je cite Danet. Le visuel est en rapport avec la perception, le nerf optique, la physiologie. Un flipper, un jeu vidéo, un texte sur un écran, une pub, tout ça, c'est du visuel. De même, on parle du visuel d'un journal, d'un magazine. Mais le visuel, cela ne relève pas du voir, cela relève de tous ces mots qui ont un vrai succès aujourd'hui. Il écrit ça au début des années 90. Visionnage, visionnement, vision. Alors, qu'est-ce que l'image si ce n'est pas du visuel ? Disons que dans notre civilisation, l'image est trop importante pour arriver comme ça, qu'il y a toujours fallu pas mal de conditions.
Alors, quelle est la différence entre le visuel et l'image ? Allez-y.
Alors, effectivement, je pense que Danet, lui, vient d'une culture cinématographique qui embrasse à la fois le cinéma classique, Ford, Hitchcock, voilà, tout ce cinéma-là, et puis le cinéma moderne des années 60-70, de La Nouvelle Vague, de Jean-Luc Godard, etc., et qui voit arriver donc ce cinéma publicitaire des années 80, et il se rend compte que les images que proposent ces gens-là, qui ne sont donc même plus des images, mais du visuel, sont déjà des objets prédigérés, prélus, tout est déjà construit, ne laisse plus aucune place aux spectateurs de ce qu'elle propose, le sens en est déjà complètement construit.
Et ça, ce serait le visuel.
Voilà, et ne laisse plus de liberté à celui
d'accord.
qui regarde.
Alors, le film... Alors, je vais faire l'avocat du diable, là, vous allez voir ça. Lelouch a fait plusieurs films, ça vous les connaissez, d'accord. Il y a un qui s'appelle Les uns et les autres, et Itinéraire d'un enfant gâté. J'ai un ami qui était très féru au niveau du cinéma, et un jour, il me dit « T'as pas eu l'impression d'assister à un film publicitaire ?» Il y a 20 ans, lorsqu'il est sorti, « Itinéraire d'un enfant gâté ». Et j'ai revu le film. Effectivement, c'est un film publicitaire. Vous l'avez en tête, le film ?
Lointainement, c'est Belmondo qui part en Afrique.
C'est ça,
parce
c'est
qu'il
publicitaire.
En a marre d'être très riche, là,
oui. Mais le problème, qu'en tant que spectateur, notre mémoire agit. Et ça peut nous toucher, cette publicité peut nous toucher, parce qu'elle nous appartient.
Je crois que...
Donc là, je veux dire que le visuel se transforme en image.
En tant que souvenir, vous voulez dire.
Voilà, très bien.
Oui.
Ce qu'aurait fait Benjamin aurait dit une chose pareille.
Ben justement, j'allais tirer ça du côté du kitsch chez Bror, chez Kundera ou chez des gens comme Benjamin. C'est-à-dire qu'effectivement, le piège de ces images-là, qu'il s'agisse d'images d'ailleurs romanesques, picturales, cinématographiques, c'est qu'elles savent qu'elles vont nous toucher parce qu'elles agissent sur des choses que nous connaissons déjà. Dans le fond, elles nous prennent par les sentiments, par le sentimentalisme même. Et inévitablement, elles peuvent agir sur nous. Ce que peut-être Danet attend du cinéma, c'est une image qui met en jeu le récit, le romanesque, le vrai romanesque, l'histoire, l'ambiguïté, l'absence, des éléments qui, d'une certaine manière, vont nous laisser une sorte de latitude de liberté par rapport à elles pour voir comment elles vont agir sur nous, comment nous allons les regarder. Mais ça ne veut pas dire que... Parfois, on est devant des films, vous parlez de Lelouch, que j'aime pas beaucoup, je dois dire, mais même des cinéastes dont je pense que ce sont des gens très doués, mais qui jouent avec ça. Je pense à quelqu'un comme Lars von Trier, par exemple, où on est vraiment toujours à la frontière, je trouve, où on nous prend par les sentiments d'une manière un peu dégueulasse, parfois. C'est-à-dire un peu... Il y a une manière... C'est difficile de résister au côté tire-larme de certaines intrigues, ou à la beauté trop fabriquée de certaines images. Et parfois, on marche et on s'en veut d'avoir marché. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être un peu ça qui peut être en jeu dans ce type d'image.
On écoute Peggy Lee.
Retour à Peggy Lee.
On va faire un voyage. Merci, Monique.
Love is lovelier the second time around, just as wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like yous is wasted en ayant love's more comfortable the second time you fall. Like a friendly home, the second time you call. Who can say what led us to this miracle we found? There are those who'll bet love comes but once, and yet I'm oh so glad we met the second time.
Et voilà qu'on applaudit Monique sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 40. Bah, toujours avec Olivier Maillard. Bah, le livre est paru chez... C'est paru ou pas ?
Ça paraît ce jeudi.
Ah, c'est jeudi, d'accord. Ouais. Poétique de Tom Cruise, hein, ou Tom Cruise. Vous êtes là en train de m'expliquer, vous ne voulez pas me faire plaisir, ce n'est pas un prétexte, c'est quelque chose que vous sentez, etc. Vous tirez de ce Tom Cruise plein d'éléments. Plein d'éléments qui sont, du moins, plein de champs de vision. Hein. Le politique, vous parlez du politique à un moment donné, hein. L'érotique, l'esthétique. Mais Olivier Maillard, tout ça, ça figure dans le cinéma italien que vous aimez tant.
C'est vrai, c'est une manière peut-être de me ressaisir différemment.
Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous dites, par exemple, Tom Cruise, ce beau garçon, ce très charmant garçon, mais très chaste.
Oui, 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 mais je suis obligé de... Peut-être que le cinéma italien s'adresse plus à moi comme adulte, je dirais.
Ouais.
Et que Tom Cruise nous fait retomber en enfance de ce point de vue-là, dans un univers où la sexualité n'existe pas, où n'est pas un problème. Et effectivement, où le monde se présente comme un terrain de jeu, où il faut courir vite, il faut sauter haut, il faut se battre contre des méchants. Et on retombe un peu en enfance et que j'ai malgré tout, malgré mon âge maintenant avancé, encore cette part d'enfance en moi.
Nous avons un beau vieillard avec nous aujourd'hui sur Radio Libertà 89.4. très bien, vous développez le côté comme ça enfantin, etc. Pour en arriver à une chose qui est simple, c'est le burlesque. Mmh. C'est le burlesque. Alors, vous voulez absolument tirer Tom Cruise vers le burlesque.
Tout à fait.
Alors, moi, je ne veux pas être buté entièrement. Et on retourne. Mais je crois remarquer que Nino Manfredi dans le cinéma italien, ou Alberto Sordi, c'est du burlesque. Hein. On en est en plein dedans, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, de toute manière, c'est bien, on va bifurquer sur le cinéma italien, c'est toujours bien d'en parler. Il y a une manière, comme notamment c'est un cinéma des pauvres, hein, le cinéma italien, avec des personnages de marginaux, de vagabonds. Il y a des emprunts au burlesque très fréquents. Il y a Toto, le comique napolitain.
Magnifique.
Il y a Giulietta Bassina dans La Strada par rapport à Chaplin. Il y a une manière, effectivement, de prendre des choses au burlesque américain, de les matiner d'éléments qui tiennent proprement à la culture italienne, à la commedia dell'arte, au masque, etc. Et en même temps aussi de prendre... ce qui, dans le burlesque américain, c'est pour ça que je pense plutôt à Chaplin, c'est le côté dickensien, on va dire, du burlesque américain, c'est-à-dire la prise en compte de l'adversité de l'homme face à la police, de la misère, de ces sujets-là, qui, pour le coup, ne sont pas les seuls objets du cinéma américain. Chez Buster Keaton, par exemple, la question sociale est moins traitée, on peut le dire, que chez Chaplin. Et peut-être que ce que Cruise, lui, retient de la leçon burlesque, c'est quelque chose qui est aussi chez Chaplin, hein, c'est ce rapport enfantin au monde, c'est-à-dire, voilà, le... Le monde est une sorte de grand terrain de jeu. Chaque objet peut être détourné de son emploi premier, comme quand un enfant, comme mon fils par exemple, prend un bâton et va me dire que coup sur coup, le bâton est une épée, un fusil. Il y en a beaucoup dans les armes en ce moment avec mon fils, ou n'importe quoi. Chez Cruz, on aura aussi ce jeu de détournement qui nous vient du burlesque et peut-être qu'il ne retient tout simplement pas la même chose du burlesque que nos amis italiens.
Est-ce qu'il différencie, est-ce que les nôtres, les amis italiens, ils sont vraiment burlesques parce qu'ils veulent l'être, ils veulent l'être. Lui, est-ce qu'il n'est pas burlesque malgré lui?
Alors, à nouveau, c'est moi qui vais me faire l'avocat de mon diable.
D'accord, allez-y,
qui sera Cruz. C'est que, non, je pense, si ça n'était arrivé qu'une seule fois dans un seul film, je vous l'aurais accordé ce point. Mais je pense que sur une vingtaine d'années et sur un certain nombre de films, il tape toujours de la tête dans la même porte sans s'en rendre compte, soit c'est qu'il en a envie. Et je pense qu'il y a quelque chose de conscient qui n'est pas que propre à Cruz, d'ailleurs je le dis, on l'a dans d'autres films spectaculaires américains, c'est que le film très spectaculaire américain, le film d'action, peut être le lieu d'une remotivation, d'une résurrection des formes burlesques, parce que ce sont des séquences qui mettent en scène le corps dans son opposition au monde, et un corps malmené, secoué, qui s'envole, qui se cogne, qui se relève. Et je pense que si, c'est délibéré chez lui.
Ça vous fait rire ?
Oui, il y en a, oui.
Ça vous fait rire, d'accord, oui, oui, mais ça marche, oui. Alors.
Vous voyez cette scène qui est sur la couverture, là. C'est une scène, donc, dans le quatrième Mission Impossible, où il est aux Émirats Arabes Unis, et il escalade une des plus hautes tours en verre du monde. Et donc, il le fait avec, soi-disant, des gants ventouses, et puis il y en a un qui se met à plus marcher, donc il tient plus que sur une main, etc. Et au bout d'un moment, il y a un mélange entre quelque chose d'hyper spectaculaire, de très Hitchcockien, qui joue sur le vertige, surtout si on le voit sur grand écran, on a peur qu'il... Puis évidemment, il se casse la figure, il se rattrape in extremis, etc. Et en même temps, ce suspense est contrebalancé ou nourri par le fait que c'est un héros qui se cogne la tête, qui se cogne tout le temps, qui est maladroit, qui loupe son coup, etc. Donc oui, délibérément, il y a des éléments de comique là-dedans.
D'accord.
Je suis en train de vous convaincre.
Je suis quoi ? Par contre, en fait, vous passez par Mallarmé, par Valérie. Tout à l'heure, je dirais l'exilien qui est très beau, hein, de Valérie, sur le corps, hein, sur le corps sans pesanteur, etc. Et puis, il y a une parenthèse sur le futurisme. Sur Marinetti. Mais par contre, par rapport à Marinetti, le futuriste et Tom Cruise, on trouve le phénomène de la machine.
Oui.
On ne trouve pas le phénomène du machisme.
C'est vrai.
Alors que notre ami Marinetti est fortement machiste. Hein,
Tout à fait. Alors, ça, c'est un des points, je pense, qui, des premiers tours que j'ai eu sur le livre où on m'a dit, ça, j'aurais pas pensé. C'est vrai que j'explique ça, c'est parce que j'ai fait ma thèse sur le cinéma italien et,
je savais bien.
Et sur la question du fascisme. Et donc, j'ai beaucoup lu Marinetti, je parle de Junger, je parle de Drieu La Rochelle, d'écrivains dont on peut se demander ce qu'ils font là avec Tom Cruise, c'est vrai. Mais parce que je me suis rendu compte que, dans ce cinéma de Tom Cruise, pas uniquement de lui, à nouveau, hein, dans un cinéma actuel ou depuis quelques décennies, notamment américain, mais pas uniquement, il y a cette célébration de la machine, de la violence, à l'évidence, du combat, etc. Et paradoxalement, ça peut faire penser effectivement à certaines avant-gardes ou à certains écrivains, notamment nés comme écrivains, pas nés... biologiquement, de la Première Guerre mondiale, Junger typiquement, qui ont vu arriver cette civilisation des machines, de la destruction totale, des orages d'acier, de toutes ces choses-là. Et c'est parce que j'avais ces lectures en moi du fait de travaux antérieurs, je me suis dit, mais c'est amusant de se rendre compte que justement, ce cinéma-là, c'est un cinéma de la célébration de la vitesse, des motos, des voitures, des hélicoptères, des avions, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui va vite, ce qui est très enfantin aussi, d'ailleurs, hein, des petits garçons qui aiment bien les gros camions, mais avec cet espoir, qu'il y ait une poésie qui puisse naître de ça, comme chez Marinetti, sur la gloire des machines, des mitrailleuses, des choses comme ça lancées à toute allure. C'est vrai que lui, il est moins dans le mépris de la femme, Tom Cruise, que l'était Marinetti dans
Vous
son...
Vous trouvez chez Apollinaire aussi, hein ?
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de ces avant-gardes du début du siècle.
Et chez Apollinaire, sans mépris de la femme, c'est un très grand amoureux, Apollinaire. Hein,
c'est vrai.
Parenthèse. Allez-y,
c'est
excusez-moi.
Vrai. Non, mais vous avez raison. En fait, c'est ce qui fait l'intérêt quand on étudie d'un peu près les avant-gardes fin 19e, début 20e, c'est qu'il y a des parcours ensuite, mais même Drieu a été proche des surréalistes, hein, des gens qui vont dans des directions très différentes, mais qui ont à un moment une sensibilité, un zeitgeist, comme aurait dit notre ami Hegel, de proche. Et oui, chez Cruz, bah, je me suis rendu compte que ça permettait peut-être de dire quelque chose, parce que par rapport à d'autres films spectaculaires actuels, notamment ceux qui misent tout sur le numérique, les Transformers, les Marvel, les choses comme ça, lui, il insiste quand même toujours pour réaliser lui-même ses cascades, il fait beaucoup de publicité autour de ça, pour inscrire malgré tout quelque chose qui demeure humain dans un monde de machines. Donc je trouvais intéressant, pour le coup ça résonne vraiment avec Junger de manière très, très surprenante, de faire ces rapprochements, effectivement.
On parle de Drieu, parenthèse de Drieu. S'il y en a un que, où il faudrait appeler Papa Freud pour comprendre Drieu, ce serait peut-être le moment de le faire, vu que c'est quelqu'un qui avait des fascinations à géométrie variable. C'est-à-dire, mais voilà, il est fasciste, mais en même temps, le communiste vous le savez aussi bien que moi, le fascine. Hein, c'est-à-dire, il y a un côté comme ça, purement visuel. Bah, lui, purement visuel, dans le plein camp du visuel aussi, faut pas croire. Hein. Par contre, voilà, ça m'a posé un. Aucun problème, votre livre, je tiens à vous dire. Okay. Mais je veux dire que vous rameutez Mallarmé, vous rameutez Bataille, vous rameutez Barthes, etc. Et puis, alors, je vais le faire, parce que c'est tellement joli. Alors, ce corps semble s'être détaché de ses équilibres ordinaires. On dirait qu'il joue au plus fin, je veux dire au plus prompt, avec sa pesanteur, dont il esquive à chaque instant la tendance. Paul Valéry.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pensez que si jamais il lisait cette phrase-là, notre ami Tom Cruise, qu'est-ce qu'il en penserait ?
J'espère qu'un jour il finira par la lire, c'est un de mes objectifs secrets, qu'il lise cet ouvrage. Non, mais c'est amusant, je dois cette citation, c'est un travail d'une de mes étudiantes sur la danse qui avait attiré mon attention sur le texte de Valéry, la philosophie de la danse, et dont je me suis rendu compte qu'il entrait vraiment bien en résonance avec ce que fait Cruise dans un certain nombre de ses films. Je pense que dans cette là, en plus, vous me piégez un peu, puisque vous en faites la liste, effectivement, Barthes, Bataille, Valéry, Mallarmé. Oui. Il y a une espèce de, oui, pas de dandisme, mais de jeu à avoir ce genre de référence pour parler d'un objet comme celui des films Mission Impossible et autres. Je crois aussi que c'est quelque chose qui tient à ma manière de raisonner, de réfléchir et d'écrire par analogie, de convoquer des références que je fais, étant professeur, assez spontanément, en fait. Ensuite, j'essaie que ce ne soit pas gratuit, disons qu'il y ait quand même toujours un lien et que c'est qu'il y a une fonction quand même explicative de ces citations ou de ces réflexions par rapport à mon objet, mais je peux pas nier qu'il y a un effet à mes yeux presque comique, oui, du rapprochement entre Tom Cruise qui saute sur un avion et Paul Valéry qui réfléchit à sa danseuse.
Mais c'est comme ça qu'on a introduit la conversation. Quand je vous ai dit qu'en vous lisant, moi j'avais dans la tête un flipper qui marchait et pof pof, ça a déclenché forcément ça.
Oui, oui.
Par contre, les gens qui vont voir un film de Tom Cruise au premier degré, qui n'ont pas vu Mallarmé, ça existe, hein.
Bien sûr.
Qui n'ont pas vu Valéry non plus, ça existe aussi. Le jeune homme qui rentre dans un cinéma et qui voit ce connard régalien. Puis c'est vous qui l'avez nommé comme ça, non?
Pour le début de sa carrière.
Début de sa carrière. D'accord, disons, qui voit ce type accroché à un manche à balai dans un avion avec son blouson de cuir, là. Il va s'identifier.
Bien sûr.
Il a pas du tout la même lecture que nous.
Oui, mais c'est pas une lecture illégitime.
Non, pas du tout.
Je crois que c'est un cinéma qui raconte des histoires avec des héros, avec des bons, des méchants, qui reposent sur une simplification épique, très manichéenne, notamment dans les Top Gun, effectivement, où les méchants n'ont pas de nom, pas de visage, on sait même pas à quel pays ils appartiennent, ils sont juste les méchants. Et effectivement, mais je crois que des films comme ça, comme les Missions Impossibles, comme Top Gun Maverick, comme tout ça, bah, s'ils sont vus avec enthousiasme, avec naïveté, avec plaisir, ils peuvent aussi éveiller un certain sentiment d'une certaine beauté, dont je ne dis pas qu'elle est toute la beauté dont l'homme est capable et dont tout le cinéma est capable, évidemment. Mais c'est bien que ce soit vu aussi comme ça.
Alors, au niveau indiscrétion, cher monsieur, est-ce que le kung-fu, par exemple, Jackie Chan, ça vous fait le même effet?
Oui, oui, oui.
Oui, c'est ça.
Oui,
voilà.
J'aime beaucoup Jet Li, j'aime beaucoup Jackie Chan, j'aime beaucoup les Wuxiapian, les films de sabre chinois, ça m'émerveille.
Donc c'est un rapport à l'image, c'est quasiment un rapport pour l'image à l'image.
Oui, alors ce qui est important, c'est qu'il y ait des corps quand même dans tout ça. Hein. C'est-à-dire que notamment, bah, vous parlez des comédiens chinois et des comédiennes, hein, si on voit ce que font Zhang Ziyi ou Michel Yeo aussi, c'est qu'il y a un émerveillement et une poésie du corps qui s'envole, qui donne des coups de poing et des coups de pied à toute allure. Il y a quelque chose de... Moi, pour le coup, j'ai jamais perdu ça, je dois dire, de mon ébahissement et de mon émerveillement assez enfantin de voir des exploits qui relèvent du cirque, hein, dans le cinéma chinois très, très sensiblement, et qui... Oui, qui font partie de ce que je voudrais pas à nouveau. J'aime aussi le cinéma de Tarkovsky ou de Fellini. Je voudrais pas que le cinéma ne soit que ça, mais je crois que le cinéma peut aussi proposer cette poésie-là.
Les femmes sont très belles chez Fellini, je tiens à vous le dire.
Un parcours
est un film magnifique. Hein.
Tout à fait.
Bon, et vous rameutez aussi au passage, et l'ami Murray Bridge.
Oui.
Hein? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas le nœud? C'est pas ce que vous cherchez dans, c'est-à-dire cette décomposition uniquement du mouvement et à la rigueur. Alors là, vous allez protester, c'est pas grave. On se fout très de l'histoire, on se fout du scénario, on se fout de tout ça.
Alors, je ne protesterai que dans un second temps et je commencerai par vous donner raison.
Je vous disais bien.
Effectivement, si j'ai un moment, je parle de Murray Bridge, c'est qu'il y a des moments dans certains de ces films d'action de Tom Cruise où, d'une certaine manière, le cinéma accomplit une sorte de geste tautologique où il est l'art du mouvement qui dit le mouvement. Voilà. Et c'est-à-dire que oui, quelqu'un court, quelqu'un marche, quelqu'un saute et... Ça peut nous enthousiasmer, alors que finalement, ça ne fait jamais que dire « je suis l'image mouvement qui vous montre des images de quelqu'un qui est en mouvement ». Et effectivement, Murray Bridge, qui était un de ces inventeurs qui tâtonnait pour arriver à ce qui va devenir le cinéma...
Il faut dire ce que c'est le monsieur que tout le monde connaît. Hein. Il y a le marcheur,
le cheval qui avance.
Le cheval, il décompose le mouvement.
C'est quelqu'un
hein.
qui, en gros... alignait les appareils photos et prenait donc des prises successives d'un mouvement, ce qui fait qu'ensuite, si nous les montons, ce que lui ne faisait pas forcément à ce moment-là, nous obtenons ce mouvement décomposé, recomposé, reconstitué, comme le permettaient les appareils d'Edison, des frères Lumière, quasiment juste après. Mais donc, effectivement, je suis d'accord avec vous que dans ces moments-là, le cinéma accomplit une de ses potentialités, qui est la potentialité spectaculaire, qui est de nous émerveiller par la simple capture et restitution du mouvement. Le récit importe peu.
C'est pour ça que vous finissez par Méliès.
Tout à fait. Tout à fait.
Là, on est d'accord. Hein?
Là, on est d'accord. Mais, parce qu'il y a un...
Ah, ça commence mal.
J'ajoute que chez Cruise, dans ce qui va m'intéresser chez lui, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette dimension de son art, qui est évidente et qui effectivement se passe presque d'une dimension narrative, qui est purement spectaculaire, il ajoute quelque chose de l'ordre de la paranoïa. Et donc, cette fois, qui repose très fortement sur le regard et le récit, sous influence hitchcockienne, je dirais.
Alors, c'est-à-dire, je vais vous confondre, parce que c'est là que je voulais en arriver, d'accord? D'accord, on écoute Peggy Lee, puis on prononce.
Je reprends mon souffle.
One kiss, one man to save it for. One love. For you alone. One word, one vow, and nothing more to tell him I'm his own. One magic night within his arms, with passion's flower unfurled. But I will try to love only one man, and no other man in the world. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, or a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. So never seek to bind me, never hope to know. Take me as you find me, way. Never mind, for you are mine today. You're mine.
Splendide, splendide, Peggy. Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître. On dérive depuis tout à l'heure, ça fait une heure qu'on dérive ensemble, là. Et puis on arrive à un point, un mot. Alors, je me demande si c'est pas chez Monsieur Marest, Monsieur voilà. Chaque fois que j'ai fait deux émissions sur les livres de Monsieur Marest, on parle toujours d'Hitchcock.
Oui,
c'est une fascination.
C'est une obsession.
Et on arrive toujours sur le même film, c'est Vertigo.
Tout à fait.
Vous l'avez en tête, Vertigo ?
À peu près.
D'accord.
Dans les grandes lignes, dans les grandes spirales.
Alors, comment on peut, en fin de compte, lier notre ami Tom Cruise, ou Tom Cruise, comme vous voulez, avec ce maître du théâtre ? Parce que c'est du théâtre constant, hein, c'est de l'esthétique, du théâtre constant, etc. Où se passe le lien, outre un seul lien, qui serait la paranoïa ?
Alors, je pense que je tire au début le fil de la paranoïa, puisque assez vite, notamment à partir de la firme, Tom Cruise va proposer dans sa carrière énormément de films qui reposent sur le schéma un peu immuable hitchcockien de l'homme innocent plongé dans un monde coupable, comme disait expliqué Hitchcock à Truffaut notamment. C'est-à-dire qu'il se retrouve voilà dans un monde où il doit se méfier de tout le monde, y compris des policiers, du système judiciaire, des avocats, etc. À partir de La Firme, notamment de Sidney Pollack, un beau thriller qui fonctionne vraiment sur ce motif. Et là où moi ça va m'intéresser, c'est que il me semble qu'à partir de ce moment-là, Cruise va développer toute un jeu qui semble renverser le rapport de force avec la mise en scène, comme si c'était son propre, alors c'est semi-délirant, hein, j'en suis bien conscient, son propre jeu, le jeu par lequel il anime son personnage, qui se mettait à diriger des éléments qui relèvent normalement de la prérogative du metteur en scène, à savoir qu'est-ce qui entre dans le champ, hein, dans l'image, dans ce qu'on voit, qu'est-ce qui en sort, qui voit, qui est vu, et qui se met à poser vraiment des questions de mise en scène hitchcockienne, entre guillemets, puisque de même que Hitchcock disait « je fais pas de la direction d'acteur, je fais de la direction de spectateur », on va voir que dans quantité des films de Tom Cruise, dans Night and Day, dans Les Missions Impossibles, dans d'autres, il y a souvent des écrans, et des écrans de contrôle, des écrans avec des caméras de surveillance, des choses comme ça. Et un des enjeux de son personnage, très souvent, c'est de truquer ses images pour que ses adversaires croient le voir alors qu'ils ne le voient pas, ou le voient alors qu'en fait il est ailleurs, etc. Autrement dit, ces personnages deviennent eux-mêmes des sortes de metteurs en scène internes de ses propres films, et ce faisant, se mettent à développer une sorte d'esthétique hitchcockienne au sein même de ses films. Évidemment, avec un sujet pareil, mon éditeur ne pouvait qu'être content vu sa fascination pour Hitchcock.
Et voilà, moi je vais faire un livre, je mettrai Hitchcock toutes les pages.
Vous êtes pris. Vous pouvez signer le contrat.
Ça c'est bon là. Voilà. Oui, mais on va revenir à mon dada, hein, par rapport à ce que vous avez écrit. J'y peux rien, c'est vous. Je persiste ici, vous persistez et vous signez. Est-ce qu'il n'y a pas une perte, effectivement, de l'humain ? Quand on regarde Hitchcock, on est dans l'humain. Quand vous regardez Vertigo, ce dédoublement de la femme, on est dans l'humain, on n'est pas dans l'Is. On n'est pas dans le Lys. Quand vous regardez effectivement, on va revenir, excusez-moi, au cinéma italien, on est dans la chair, on est dans l'odeur. Est-ce qu'il n'y a pas une perte là, quelque chose ?
Vous allez être déçu, mais je vais être d'accord avec vous.
Oh merde.
je crois malgré tout qu'il y a un changement de régime d'image. C'est un peu ce que disait Danet dont on parlait tout à l'heure, en passant de l'image au visuel. Il y a ça rejoint ce que dit Baudrillard aussi dans Simulacre et Simulation, c'est-à-dire qu'on perd un cinéma de l'histoire pour entrer dans un cinéma du simulacre. Et effectivement, si on prend les grands récits hitchcockiens, les grands films hitchcockiens, même un film aussi ludique et aussi proche des Missions Impossibles que La mort aux trousses, par exemple, il y a du freudisme, j'ai envie de dire. Enfin, il y a des rapports compliqués avec les parents, il y a des rapports compliqués avec l'autre sexe, il y a effectivement, comme vous dites, de la chair, il y a du conflit, etc. Alors que, avec Cruise, oui, on bascule d'une certaine manière dans quelque chose qui est l'ordre de la surface ou de l'enfance, et qui n'accède pas exactement à la même puissance d'affect, à la même puissance mélodramatique ou romanesque. Et oui, on a quand même affaire à un cinéma de notre temps.
Vous parlez, bah oui, mais c'est pas encourageant.
Pas forcément.
Vous parlez d'auto-érotisme, chez Creuse, par exemple.
Je pense qu'il y a quelque chose qui rejoint d'ailleurs un sujet sur lequel je travaillerai peut-être après dans un autre livre. Effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours très musclé et qu'il est toujours dans des petits t-shirts moulants, assez propre à notre époque, oui, d'un auto-érotisme sans autre, en fait, effectivement. On est content de se trouver musclé, de se trouver séduisant, mais finalement, il n'y a pas le rapport à l'autre parce que c'est sale, parce que ça transpire, parce qu'il y a des odeurs, etc. Et oui, il y a quelque chose de cet ordre, effectivement, d'un peu refermé sur soi et sans le rapport dialectique à l'autre.
Vous connaissez ce film de Buster Keaton, Fiancé en folie ?
Oui.
Vous voyez,
je me souviens qu'il court.
Voilà, il est poursuivi par je sais pas combien, par un océan, par un essaim de femmes. Et puis au lieu de faire front ou d'en choisir une, il se débine. Voilà.
Oui.
Là, il y a une impossibilité, quoi. Il y a des personnages femmes attachants chez Tom Cruise, ou c'est un jeu purement de miroir?
Alors,
par rapport à lui-même?
Là, il faut voir que quand on est sur cette esthétique-là, je parle surtout de la dernière période avec les Jack Reacher, les Missions Impossibles, les Night and Day, etc. Mais malgré tout, oui, il y a des films avec des rencontres. Et notamment ceux avec celle qui a été sa femme, avec Nicole Kidman, même dans Jour de tonnerre, mais évidemment dans Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, de ce point de vue-là, est assez intéressant, le film de Kubrick, donc, parce que c'est un film donc adapté d'une très belle nouvelle de Schnitzler, la Traum Novelle, où on a un homme qui, au cours d'une nuit, bouleversé par les révélations de sa femme, qui lui dit qu'elle aurait pu, croisant un homme, qu'elle... le quitter pour cet homme, même si elle ne savait rien de lui, même si elle disait adieu à toute la vie qu'elle avait menée jusqu'alors. Ce personnage donc masculin va errer toute une nuit, aller de rencontre féminine en rencontre féminine, mais aucune ne se concluant avec un rapport charnel, comme si à chaque fois il butait sur quelque chose qui est celle de vraiment la rencontre érotique.
Mais vous avez alors tout à l'heure vous avez sorti un mot, c'est le mot thriller. Vous avez dans les très beaux thrillers, j'ai envie de dire contemporains années 80 comme ça, les hommes ont une impossibilité, après vous allez voir où je vais en arriver, ont une impossibilité de conclure avec les femmes très souvent. Mais il y a ce qu'on appelle, qui passe, la mélancolie. C'est-à-dire, c'est Mitchum dans Adieu ma jolie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est Mitchum, il y a la mélancolie qui passe. Vous avez Chinatown.
Oui. Oui, oui.
Avec
Jack Nicholson.
Il y a une histoire de femme, la mélancolie passe comme ça. On ne trouve pas ces sentiments-là dans les films de...
Non, effectivement, ou pas depuis longtemps. Moi, mon bon espoir, malgré tout, c'est que là, arrivant à l'âge où il a une petite soixantaine d'années, et il comprend qu'il ne va plus pouvoir continuer à sauter d'un hélicoptère à un avion à une moto encore très longtemps.
Ça va vous décevoir, la vie, ça va être dur.
Ça va lui faire mal au rotule. Non, mais justement, il y a eu des annonces, on parle de lui pour le prochain film d'Iñárritu, pour le prochain film de Quentin Tarantino, où, malgré tout, même s'il y aurait à redire, et je ne fais pas de ces deux réalisateurs les équivalents de Polanski ou autres, de cinéastes plus anciens, il retourne effectivement à un cinéma peut-être plus dense, et j'aime beaucoup votre motif mélancolique, parce que je crois effectivement pour qu'il y ait mélancolie, il faut qu'il y ait eu une sorte de densité existentielle à un moment, qu'on ne voit plus vraiment affleurer depuis Belle Lurette dans ses films.
Bien sûr.
Et à nouveau, comme je le disais, c'est pour ça que je ne voudrais pas que le cinéma se résume à ces films-là. J'y prends plaisir, mais je ne voudrais pas qu'il se résume à ça. Et effectivement, ça, c'est une vraie différence. C'est comme s'il y avait une part existentielle qui échappait à ces films. C'est pour ça que je les rattache à l'enfance, à mon avis. C'est qu'on n'en est pas arrivé là. Et je parlais de Tarantino à l'instant, typiquement, qui a signé ce que... A priori, je suis assez partagé par rapport à lui. Il y a vraiment des films de lui que j'ai en horreur. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé son dernier film sorti. Là, il était une fois à Hollywood. Précisément, c'est un film mélancolique. C'est vraiment un film très mélancolique sur le temps qui passe, sur un monde qui disparaît. Et où d'un seul coup, j'ai eu le sentiment qu'il arrêtait d'être un adolescent ricanant qui aime les effets gore pour se mettre à raconter quelque chose d'un peu mélancolique et qu'il accédait enfin à l'âge adulte. Et donc, ce serait peut-être bien si Tom Cruise l'accompagnait dans ce périple.
Alors, selon vous, si j'ai bien compris, il y aurait quand même deux Tom Cruise.
Au moins.
J'ai envie de dire très distinctement. Hein. Le connard gagnant, pour commencer, qui comporte quoi comme film, ceux qu'on voit le plus souvent?
Le premier Top Gun, Cocktail... La Rain Man qui peint un très bon film, La couleur de l'argent de Scorsese qui peint un très bon Scorsese, voilà vraiment les premiers jusqu'à cette bascule que je situe, moi, autour de, des hommes d'honneur et la firme dont je parlais à l'instant, de Sidney Pollack.
Et après, vous avez celui de...
Ensuite, on a la période où il creuse à la fois un certain rail auteuriste, enfin, un certain sillon, pardon, auteuriste, avec notamment, ben, j'en ai parlé, Paul Thomas Anderson et avant ça, Kubrick. Et puis, où il va lancer la franchise Mission Impossible et d'autres petites franchises ou films de science-fiction qui va le consacrer comme action man, disons, et pur corps burlesque en parallèle.
Il a, au niveau du politique, il dit quelque chose ? Lorsqu'on en voit d'aucuns dans le cinéma américain, ils disent quand même des fois.
Hein. Oui, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Il est très prudent. Je pense que lui, il ne veut se mettre à dos personne. Bon, il a son engagement scientologue qui est déjà assez chargé comme ça, peut-être. Donc, les quelques déclarations dans ce sens, quand il est en grand tablier scientologiste, sont suffisamment délirantes. Mais sinon, ce n'est pas comme Clint Eastwood avec les Républicains ou comme d'autres comédiens hollywoodiens avec les démocrates, etc.
Qui a pris position quand
où,
même. Hein.
Voilà, où on a ou Jane Fonda dans les années 70 ou des choses comme ça. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vise à quelque chose de très consensuel, de qui fait attention, je pense, qui se surveille et qui n'a pas forcément d'idées particulièrement développées là-dessus. Enfin, j'ai pas beaucoup creusé dans cette direction-là, mais il me semble pas.
Croyez que c'est un cinéma qui va rester, ça, ou qui va simplement être un cinéma indicatif d'une époque et...
C'est une bonne question. Je pense quand même que dans ce qu'il a fait avec Mission Impossible, notamment, il y a quelque chose qui devrait rester. Plus longtemps que les horreurs Marvel, à mon avis. Ça va. Mmh. Il y a quand même quelque chose sur le regard, comme je disais, sur le corps, qui me semble, cette association de cette dimension paranoïaco-hitchcockienne et burlesque-keatonienne, c'est assez neuf quand même. Je dis pas, voilà, que c'est pas Rossellini et le néo-réaliste, et ça casse pas l'histoire du cinéma en deux, mais malgré tout...
Je vous le fais pas dire, quand même.
J'avais compris.
Je vous le fais pas dire.
Mais je pense que oui.
D'accord. Et vous voyez, c'est un personnage comme ça, puisque alors, il est avec sa musculature, ses dents. Il a 32 dents impeccables, hein, ce sourire hollywoodien. Oser se détruire, par exemple, se détruire dans un rôle... tout à l'heure, on parlait de... Bah, je parle avec Christiane dans le couloir, là, on parlait d'Alain Delon. À un moment donné, Alain Delon accepte de se détruire.
Oui, chez Blier ou chez Godard.
Chez Godard, il se détruit dans une vie, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez, et il est complètement bourré, il la destroy. Vous voyez des gens comme ça, accepter de se détruire, ou comme Brando qui s'est détruit. Hein,
Alors, chez Cruise, comme on est vraiment dans une sorte d'obsession de la maîtrise, qui me semble assez bien correspondre à ses propres pulsions sectaires ou sectaristes, vous pouvez voir que même lorsqu'il va dans des rôles très grotesques, en fait, on voit la maîtrise dans l'autodestruction. Je pense à deux rôles qui datent d'une quinzaine d'années. Un rôle dans un film très amusant de Ben Stiller qui s'appelle Tonnerre sous les tropiques, Tropic Thunder, où il joue une sorte d'horrible producteur juif libidineux qui fait beaucoup penser à Harvey Weinstein d'ailleurs, qui est vraiment ordurier, qui injurie tout le temps tout le monde, et qui est vraiment c'est un film très drôle, et lui il est drôle, mais le film en entier est d'ailleurs très très drôle. Mais, ou même dans des films beaucoup moins heureux, il a fait une sorte de comédie musicale rock qui s'appelle Rock of Ages, qui est absolument raté, où il joue une rock star, qui est toujours en espèce de string, c'est avec un compagnon qui est un petit singe à qui il parle. Dans ces séquences-là, dans ces rôles-là, on voit que la dimension, le pas de côté par rapport au rôle attendu, le contre-pied, la dimension grotesque, la trivialisation, elle-même est extrêmement contrôlée, en fait. C'est-à-dire que, par rapport, vous parliez de Brando, ou même de Mickey Rourke, ou de gens comme ça, où vraiment, on a l'impression, par moment, d'assister à une autodestruction complète le temps du film. Si vous prenez l'abandon que donne Brando de lui-même dans Le Dernier Tango de Bertolucci, par exemple, on n'a rien de tel chez Cruise.
Dans Apocalypse Now.
Ou dans Apocalypse
Now. Quand il n'est plus que ce personnage, ce gros bouffi dans l'ombre, là. Oui, oui.
C'est vrai qu'il avait promis à Coppola d'arriver dans une forme athlétique pour incarner un militaire de choc, etc. Puis quand ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, on va le laisser dans l'ombre, effectivement.
C'est là qu'il atteint le génie, d'ailleurs.
Bah oui, avec la lumière de Storaro, qui est absolument magnifique. C'est une grande scène.
Bon, on va. Bah, je vous rappelle que vous devez, dans le 19e arrondissement, manger des légumes. Et voilà, du 11 au 18, vous déféquez ce que vous voulez, et après, les égouttiers vous remettront un rapport. Ça vaut le coup de venir sur Radio Liberté 89.4. Hein. Alors, poétique de Tom Cruise, hein, Olivier Maillard, audition Marest. Hein, et il faut du temps pour devenir Tom Cruise, même quand on s'appelle. Il est devenu ou il va encore devenir autre chose là ? Parce que c'est ça la phase de couverture.
L'idée, ce serait, enfin moi, mon espoir, c'est que il devienne autre chose, mais pas trop vite, le temps que mon livre conserve une certaine pertinence, encore un an ou deux, comme moi. Puis ensuite, on fera une édition augmentée si besoin.
D'accord. Eh ben, édition Marès, petit de Tom Cruise. Olivier, c'était un plaisir.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Monique comme maintenant.
Merci.
Ici, on peut avoir ce que vous avez sous la main, Peggy Lee, c'est très bien. Merci.
Sometimes I get a little worried, but I'm gonna tell you everything's all right now. Yeah, because I got a man now. Well, Tony, he's good to me. He's good to me. Yes, I got a man now, way over town. He's good to me, he's good to me. He say I love you now, early in the morning now. He's good to me, he's good to me. He say I love you now, early in the morning now. He's good to me, oh yes he is now. He say you love me tenderly, oh I love him now, tenderly. Yes, I got a man. Horses, horse treats me right. Never runs in streets and that. Leave me alone. He knows this place now, right? He know in his home. Yes, I got a man now. Well, Tom, he's good to me. He's good to me, yeah.
C'était un soir de juin, l'alcool avait tourné, Jésus s'en revenait, ivre du cabaret, jurant et blasphémant, maudissant le carême, on l'entendait gueuler jusqu'à Jérusalem. Il pensait à sa panse bien plus qu'au Saint-Esprit, et il cherchait un lit pour apaiser ses sens. Il titubait ainsi, plus sous qu'à Tibériade, quand tout à coup il vit ses quatre camarades. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, je vais vous présenter les quatre camarades de Jésus. Le premier, Simon-Pierre. Le premier, Simon-Pierre, était un vrai ivrogne qui passait tout son temps l'innommable charogne à écuer sa vinasse sur un banc du quorum, ne bougeant sa carcasse que pour mander l'aumône. Le second, un certain André. Le second incertain, André pour les intimes, eunuque de métier, passé pour le plus digne. Il racolait les hommes pour trois écus romains, du côté de Sodome, dans le quartier des Bains. Jacques et Jean, les deux frères, pala pala pala, pala pala pala. Jacques et Jean, les deux frères, deux aimables macros, avaient mis au tripot leurs trois sœurs et leur mère. Les soirs de grands banquets, ils dénichaient des dames et allaient forniquer au temple d'Abraham. Il Ils étaient tous les quatre assis autour d'un banc. Et ils gesticulaient comme de vieux forbans. Nos hommes étaient si saouls qu'ils se croyaient en mer. Tout autour de la terre semblait faire des remous. En avant, moussaillon, s'écriait le vieux Jacques, affrontant le plein fouet, l'écume et la bourrasque. Ah, moi le gouvernail, s'écriait son frère Jean, évitons la rocaille et filons droit devant. Il naviguait ainsi sur la terre bien ferme, quand tout à coup ils virent l'éclair d'une lanterne et Jean. Là-bas, il y a un mec qui marche sur l'eau. C'est beau. Oh, les amis, un fantôme, s'écria le vieux Pierre par le Deutéronome. Il marche sur la mer, mais non, bande de cons, ce n'est que moi, Jésus. Vous êtes encore tous ronds, un bande de malotreux. Si c'est toi, cria Pierre, ordonne que je vienne. Eh bien. C'est profond, Jésus. Là. Je vais me noyer, moi. Je marche sur la mer et défile et ressac, s'écria le bon Pierre. Mais d'un coup Simon Pierre eut envie de vomir et ses jambes se mirent alors à flageoler. Oh, si c'est toi Jésus, je t'en prie sauve-moi. Et Jésus de répondre, homme de peu de foi. C'est pas fini. De 1000 ans de croisades, de sainte inquisition, de sang de dragonnades et de persécutions, de chasse aux sémites, de chasse aux albigeois, d'autodafés de rites barbares pour la foi. 2000 ans de croisades, de colonisation, de crimes en dragonnade et de persécutions, de massacres des juifs, de massacres des morts, de silence nazi, de massacres encore, 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite.
Croire, vous les croyants, que nous autres les mécréants, on n'aimerait pas quitter la vie en trottinant d'un paravis, cœur léger et sans un radis, sur les chemins du paradis. N'imaginez pas qu'on se réjouisse à l'idée de ces vers qui glissent et se nourrissent de nos histoires dans les replis de nos mémoires. Ces hordes d'asticots qui grouillent, nous aussi, ça nous fout la trouille. Priez pour nous, pauvres athées, priez pour nous, les pas gâtés. On a les foi, mais pas la foi. Pareil qu'on a pas d'âme. Sans autre forme de procès, Dieu nous interdit l'accès aux voluptés de l'espérance, en d'éternelles vacances. Il a réservé ses dimanches à ceux qui montrent patte blanche. Se foutant du quart comme du tiers, il a dessiné la frontière. D'un côté, tous les bienheureux, promis au royaume des cieux. De l'autre, allez savoir pourquoi, toute une armée de types comme moi. Priez pour nous, pauvres athées, priez pour nous, les pas gâtés. C'est Dieu qui nous tourne le dos, qui nous fait pas de cadeaux, qui dit qu'on a pas d'âme. Si c'est ainsi qu'est vraiment Dieu, un petit fonctionnaire besogneux, un boutiquier fade et mesquin, qui dit que pour garder son pain, il faut savoir donner les miettes, tomber à côté de l'assiette. Si l'Éternel est à ce point, si misérablement humain, s'il est à notre piètre image, jusque dans l'idée du partage, Y a vraiment rien à en tirer. Je suis athée, je suis atterré. Eh ben, si Dieu croit pas en nous, on s'en fout pas mal, mon amour. Je brûle des cierges à tout essaim, bras en croix dans un lit moelleux. Nous deux, on est très pieux. Je ne me fie qu'à tes instincts, et quand tu dis que tu crois en moi, c'est le désir qui croit en moi. Je suis à tes pieds, et je n'ai Dieu que pour tes yeux. Ce qui est pris n'est plus à prendre, et notre avenir ne peut attendre. Nous les athées, nous les sans ciel, on n'espère plus le bonheur factice de leurs cieux d'artifice. Nous, on ne croit qu'à l'essentiel, et pour honorer notre foi, on étanche notre soif. On s'abreuve du vin d'ici plutôt que de l'eau de là.
Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, bref, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Il y avait Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui, mais moi Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Moi je n'ai Dieu que pour toi. Et pour toi là-bas aussi dans le fond. Mais toi le petit là, dans la chapelle de tes Sixtines, je m'y perds mon lapin. Accueille-moi contre ta poitrine, parmi tes seins, où coule le lait et le miel. C'est la terre promise, laisse-moi porter jusqu'à l'hôtel ta petite valise. Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, Yahvé le choix. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui mais moi, Dieu, Dieu, oui je n'ai Dieu que pour toi. Et Dieu, Dieu, oui je n'ai Dieu que pour toi. Selon saint glissé de la passion, j'ai mis au clou, depuis le jour de ton apparition, tous mes gourous. Et j'ai dit stop, stop, arrêt Krishna, un coup de poudre, arrêt curé, un baril de super croix. And walking on, walking on the moon.
Oh, avait Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, y avait Chouakwaya, y avait Mahomet, Allah, Zarathustra, puis moi. Mais moi, Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi. Zélé comme l'ange du paradis, je prie encore mieux pour être avec toi toutes les nuits. Je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Oh, Yahvé, Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé, Chouakwa, Yahvé, Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Yahvé, Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé, Chouakwa, Yahvé, Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi.
Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui ait su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception. Le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon. Dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres sans le dire pensaient qu'elle a du bon. Le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craques en sang brèveuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions. Le sabre et le goupillon.
Il m'a fallu des années, et c'est long, pour ôter de moi toute religion, ce que c'est quand même que les habitudes et la trouille. Peur de déplaire à sa famille, peur déjà de supporter sa dernière heure, sans qu'aucun espoir d'un monde meilleur ne gazouille. Enfin j'en suis sorti, et c'est tant mieux. Mais voilà que mon fils ouvre les yeux, ne demandant qu'à croire au merveilleux évangile. Qu'il me pardonne de lui dégonfler son Superman pour bande dessinée. Faudra vivre sans lui, tant pis si c'est moins facile. Et Jésus, depuis le début des temps, il y en eut plus d'un, heureusement, à vouloir nous sortir de notre banc de galère. À prêcher l'amour, à prêcher la foi, par des miracles épater le bourgeois, et alors je ne vois là rien d'extraordinaire. Il guérissait les malades, et puis quoi? Des guérisseurs, j'en connais deux ou trois, dont la mère n'était pourtant pas immaculée. Ton Jésus, arrange-le chez les héros, admire-le sans chanter de credo, et des églises, ne va pas croire aux contes de fées. Et puis, quand tu seras sorti de là, ne tombe pas de Caribe dans Scylla, tu sais, tous les prêtres ne donnent pas le baptême. Il y en a qui hurlent, garde à vous, d'autres prolétaires, unissez-vous, mais regarde-les de près, ce sont tous les mêmes. Des gens qui veulent apprendre à penser, rien que par réflexe conditionné, à marcher au pas en brandissant des emblèmes. Méfie-toi des rouges, des blancs et des noirs, ne cotise pas chez les marchands d'espoir, vis ta vie tout seul, écris ton histoire toi-même.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Donc après avoir charmeuse Monique, Serge au micro, Nicolas il bosse aujourd'hui, il n'est pas avec nous, mais on va le voir, je pense. J'espère lundi prochain, voilà. Donc une nouvelle émission bien sûr. Avec un invité que je vais présenter, puis qui se présentera plus longuement, autour d'un livre publié récemment, d'ailleurs, « Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes ». Voilà, ça, c'est un titre de polar, mais on verra que ça peut se lire comme un polar, en fait, mais c'est tout à fait historique. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous lire la présentation de l'émission, que vous retrouverez sur notre site. Et demain, vous aurez le podcast de cette émission. Donc, pour faire avoir le site, vous faites Trou Noir au pluriel, Radio Libertaire, et voilà, vous tomberez sur le site et l'ensemble de nos émissions. Voilà, donc, une petite présentation rapide. Sylvain Boulouk, historien spécialiste du communisme, de l'anarchisme et du syndicalisme, a publié récemment, donc, « Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes ». C'est quelle édition?
Édition du CERF.
Édition du CERF, voilà. Alors, un petit résumé de la période et puis du contenu, effectivement, du bouquin et des échanges qu'on va avoir. À l'occasion du 100e anniversaire d'un événement où, pour la première fois en France, des ouvriers ont tiré sur d'autres ouvriers, causant la mort de deux anarchistes et plusieurs blessés graves. Donc, ce livre présente de nombreux documents permettant de reconstituer ce qui s'est passé le 11 janvier 1924, lors d'un meeting appelé par le Parti communiste, dans la grande salle du siège de la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, à Paris, dans le 10e, je crois, c'est ça. Donc, témoignages, rapports de police, articles de l'Humanité, qui à l'époque était dans les mains du Parti communiste, et du Libertaire, qui était quotidien, je crois, à l'époque. Voilà. Cet épisode sanglant intervient dans une période particulièrement conflictuelle dans le mouvement ouvrier. Sur le plan politique, au congrès de Tours de décembre 1920, une majorité de membres de la SFIO, donc, quittant la SFIO, crée la SFIC, Fédération française de l'Internationale communiste, qui est liée donc à l'Internationale communiste, qu'on appelle aussi Comintern, entérinant un alignement inconditionnel sur la politique décidée à Moscou. Sur le plan syndical, alors évidemment, il y a forcément des conséquences, on va en parler en détail. La bolchevisation de la CGTU est confirmée à son deuxième congrès de Bourges, et après déjà un premier congrès à Saint-Étienne, mais où on voyait déjà les rapports de force. Disons que c'est une confirmation au congrès de Bourges, où est votée l'adhésion à l'Internationale syndicale rouge, ISR, qui est un féodé au Comintern, malgré évidemment l'opposition d'une minorité syndicaliste révolutionnaire, dont on va avoir l'occasion de parler, bien sûr. Ainsi, l'utilisation de la violence par les communistes résonne fortement avec des connaissances grandissantes qu'ont les anarchistes de la réalité de la dictature bolchevique sur le prolétariat russe, notamment Kronstadt, Ukraine, etc. On commence à avoir pas mal de témoignages à ce moment-là. Par la suite, beaucoup de syndicalistes libertaires vont quitter la CGTU, ce qui accentuera encore la mainmise des communistes sur